Quand vos reporters tendent
l'oreille au cœur
du Valois-Mulcien, c'est
l'oreille dans le coin.
Auditrice, auditeur.
Alors pour RVM.
Bonjour, c'est Yann.
Bonjour, Frédéric.
Voilà, c'est Hervé.
Alors qu'est-ce qui se passe ? C'est
l'oreille dans le coin.
Je suis aujourd'hui à Longueuil-Sainte-Marie en compagnie de Bruno Bell qui va faire une conférence sur l'hydrologie régénérative. Bonjour Bruno. Est-ce que tu peux m'expliquer déjà ce que ça veut dire, ça, l'hydrologie régénérative? Bon, c'est autour de l'eau, ça, on comprend déjà.
Bonjour.
L'eau qui régénère.
Bonjour Anne-Laure.
Bonjour.
C'est une histoire d'eau déjà. Hein. On voit bien que c'est une histoire d'eau et puis c'est pour régénérer donc ce qui a été détruit et ce qui fonctionne plus dans les paysages, dans les cycles de l'eau, entre autres.
Comment on fait donc pour régénérer?
Eh ben, il y a plein de techniques. Mm-hmm. Il y a plein de personnes qui se sont penchées sur la question depuis pas mal d'années, puisque on peut aller voir des expériences en Australie, par exemple.
Quel type d'expérience?
Par exemple, un monsieur qui s'appelle Leo Mans en 1954, qui reverdit le désert. Voilà.
Il reverdit le désert.
Il met
de la végétation dans le désert.
Voilà. Donc, il arrive à changer complètement un paysage, même régional, parce que il a compris certaines choses, entre autres la topologie. Il a respecté des choses au niveau de la topologie. Au niveau des paysages, depuis... deux siècles, on va travailler les paysages pour drainer l'eau, pour évacuer le plus vite possible l'eau dans les paysages. Et lui, il fait l'inverse. En fait, il va retenir l'eau un maximum. Donc, il y a plein de techniques. Il y a des fossés qu'on appelle des baissières sur les courbes de niveau, par exemple. On peut faire ça. Il y a des mares. Voilà.
Mais dans le désert, donc bon, il y a des points d'eau, hein, ça, certainement. Mais comment il fait, en fait, pour reverdir
Alors,
un désert?
Alors lui, il était sur un ranch. Donc, c'était un fermier. Et il a inventé une charrue qui s'appelle une sous-soleuse. Son sol était complètement compacté et donc pouvait pas y avoir autre chose que des graminées. Puis après, les graminées, à la période sèche,
se
desséchaient complètement. Mmh. Il a ouvert sa terre avec cette sous-soleuse. C'est pas un labour, hein, c'est vraiment une charrue en forme de T un peu. Et il a planté directement les arbres dans les sillons. Alors au début, des petites plantes. Et puis petit à petit, quand l'humidité est revenue dans le sol, parce qu'en fait, la végétation ramène l'humidité dans le sol, et ben, il a planté petit à petit des arbres. Et puis ça fait des paysages assez beaux. Parce que ça respecte les courbes de niveau. C'est assez artistique comme... Quand on voit ces paysages-là, ouais.
Tu peux nous donner d'autres exemples d'hydrologie régénératrice ?
Oui, il y a une expérience qui m'intéresse beaucoup. C'est un Suisse qui est parti vivre au Brésil il y a une trentaine d'années et qui a décidé de... C'était un biologiste, donc il est bien placé pour connaître le vivant. Et il a décidé d'acheter une parcelle de 400 hectares qui était complètement désertique. Ça appartenait à une scierie, ça avait été coupé, c'était vraiment catastrophique. On voit des photos, c'est vraiment le désert. Et donc en 10-20 ans, il a recréé donc un paysage verdoyant en plantant beaucoup, en associant, en semant très très dense et en perturbant. Il a remarqué qu'en fait, en perturbant, ça veut dire couper en fait de la végétation et la mettre au sol en vert. Ça arrosait directement en fait les plantes qu'on voulait garder, quoi. Et donc il produit du cacao, c'est l'un des cacaos les meilleurs au monde. Il a fait ressurgir 14 sources sur son terrain alors qu'il n'y en avait pas. Enfin voilà, il y a quand même... Mais ce n'est pas des miracles, hein. C'est juste du bon sens, de l'observation et puis se rendre compte que depuis des années, on n'est pas allé dans le bon sens.
Oui, qu'est-ce que tu veux démontrer justement par cette conférence, hein?
Alors là, cette conférence, c'est un apport, je dirais, théorique à un chantier participatif qu'on veut faire sur le terrain d'un copain qui a un terrain en pente, qui a une difficulté comme moi de quasiment pas avoir d'eau. Donc ça m'intéresse beaucoup d'essayer de pratiquer ici en Picardie, maintenant qu'on commence à avoir ces problématiques d'eau, de se dire est-ce qu'on peut expérimenter par exemple la syntropie de...
La syntropie.
Syntropie de Ernst Goetz.
Oui, qu'est-ce ?
C'est ce fameux Suisse qui était au Brésil, donc c'est cette technique, ça s'appelle la syntropie.
D'accord, la syntropie. Et toi, tu arrives à chercher de l'eau, à trouver de l'eau sur des terrains, non ? Tu es un petit peu sorcier, je crois.
Oui.
Avec quel type d'instrument, d'outils ? Tes mains aussi ?
Alors, je le fais avec mes mains, je le fais avec des baguettes de sorcier, de façon classique. Ce que j'ai pu constater quand même, c'est qu'il y a de moins en moins d'eau dans le sol. Enfin, Il y a toujours de l'eau dans le sol, mais par contre, elle est de plus en plus profonde. Et quand je vois les puits, avant, ils étaient creusés et il y a encore des marques de cours d'eau asséchés. Ils sont à peu près à 4 mètres de profondeur. Mmh. Entre autres, dans une commune à côté, là où j'ai fait une expertise pour une dame. Et elle m'a demandé d'aller chercher de l'eau pour elle. Et les veines pour aller forer l'eau étaient à 150 mètres aujourd'hui.
Tu peux déterminer ça, en fait ?
Ah ben, ça se détermine par adiesthésie. Alors, moi, j'ai un pourcentage d'erreur, mais le pourcentage, j'ai 5% d'erreur, quoi. Donc,
mais c'est précieux comme savoir, ça, puisqu'en fait, on va être en manque d'eau. Enfin, on est déjà en manque d'eau dans certaines régions, pas forcément qu'en France, loin de là, d'ailleurs. Mais bon, peut-être pas en Picardie, mais certainement que si, en fait, où ça va venir, en tout cas. Mais ça peut être précieux, en fait.
Oui, je suis assez mal à l'aise avec ça, parce qu'en fait, pour moi, ça va pas dans le bon sens. D'aller prélever encore et encore de l'eau dans le sous-sol.
On va en trouver comment alors ?
Eh ben, cette dame, par exemple, je lui ai dit de faire un devis avec une entreprise de forage. Je lui ai expliqué aussi que faire une récupération d'eau de pluie, c'était, je pense, largement moins cher.
Faut-il qu'il pleuve et qu'il pleuve et qu'il pleuve ?
Oui, mais...
Il y a encore de la pluie.
Il y a encore de la pluie. Il y a encore de la pluie. Je pense que dans l'avenir, on va avoir des précipitations qui vont être plus forte et plus dispersée. Alors qu'on était habitué à notre crachin picard, où il y avait toujours de l'humidité, on voit que même dans le nord de la France, on a des problématiques qui commencent à se révéler. Ouais.
Tu es enseignant, en fait, dans l'eau déjà, non ? Qu'est-ce que c'est que ton titre et où est-ce que tu enseignes ?
Je suis prof de génie chimique et de traitement de l'eau. Donc effectivement, je suis un petit peu de la partie. J'ai travaillé dans l'industrie chimique avant d'être prof. J'ai travaillé en station d'épuration avant d'être prof. Donc la partie technique au niveau de l'eau, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé depuis que je suis petit. Hein. C'est pas par hasard aussi que je travaille sur ces problématiques de l'eau.
De quoi tu as parlé aussi dans cette conférence ? Parce que je ne vais pas prendre de son pendant la conférence.
Ce dont je vais parler, c'est aussi des cycles de l'eau. Parce que je dis des cycles de l'eau. À l'école, on apprend un cycle de l'eau. Donc, un cycle de l'eau, l'eau s'évapore de la mer, ça forme des nuages, ça se précipite sur le relief ou sur le paysage à terre. Et puis, ça retourne à la mer par les lacs et les rivières. Bon, ce cycle de l'eau, il est très endommagé avec les aléas climatiques. La conséquence des aléas climatiques, c'est vraiment sur l'eau que ça le fait. Ça veut dire que les vents énormes, c'est parce que il y a un déséquilibre au niveau de l'eau. Les sécheresses, c'est la même chose. Les tornades, c'est la même chose. La grêle, etc. Donc, on a vraiment une problématique au niveau de l'eau. Mais faudrait pas gommer le fait qu'on a modelé les paysages. Comme je disais tout à l'heure, on a modelé les paysages et peut-être qu'on est capable très rapidement d'inverser la tendance et de remodeler des paysages, mais dans l'autre sens.
Et pourquoi tu n'es pas pour ce qu'on préserve dans le sol, l'eau ?
Ah si, si, moi
je... Non, parce que tu disais qu'on n'allait pas forer pour aller chercher de l'eau, etc.
Je suis pas pour qu'on prélève encore de la ressource en eau dans le sol. On a une grosse problématique sur le premier cycle de l'eau que je présente, c'est l'eau de consommation. L'eau de consommation, elle est prise principalement dans le sol. Et elle est reversée, donc on l'utilise, elle est traitée, etc. Après consommation, il va y avoir une station d'épuration. Et ça va être rejeté en surface. Ça va être rejeté souvent dans la mer ou dans les rivières. Et en fait, ça pose un problème parce que les nappes phréatiques, elles ne peuvent pas se régénérer. Et les cours d'eau souterrains ne peuvent pas se régénérer. Donc au contraire, moi je crois que le meilleur réservoir, c'est le réservoir qui est dans le sol. Il faut l'utiliser celui-là, ouais. Entre autres, les zones humides, hein, les marécages, on sait que...
Il y a des préservations maintenant, beaucoup de zones humides. Enfin, ça fait longtemps d'ailleurs.
Oui,
ça se multiplie, j'ai l'impression.
On en a très très peu de zones humides. Hein. On sait qu'un marécage, ça rend service énormément, sur, entre autres, la dépollution de l'eau. Hein. Et puis le stockage.
Et qu'est-ce que tu fais chez toi pour l'eau ? Enfin, tu récupères déjà l'eau de pluie ?
Alors, je récupère l'eau de pluie.
T'as une mare ?
J'ai une mare, effectivement. Mm-hmm. Quand j'ai installé la mare dans le jardin, j'étais très surpris de voir en été de la rosée, alors qu'il faisait très chaud, de voir de la rosée. Et puis là, avec ces histoires de syntropie, c'est aussi ne plus du tout arroser. Donc ça, c'est un objectif que j'ai depuis une dizaine d'années. Les gens ont beaucoup rigolé quand je leur ai dit ça, mais j'aime bien faire rire les gens, donc ça ne me gêne
pas. Parce qu'en plus, ça a fonctionné de ton côté, donc tout va bien.
Et j'y suis pas encore arrivé. J'ai fait des petits détours par la permaculture où j'ai pu structurer un peu le jardin. J'ai pu structurer aussi la maison.
T'as fait des lasagnes?
Ben, j'ai fait des buts comme tout le monde, par exemple. Cette technique de but qui était le truc de la permaculture.
Avec des superpositions de différentes couches.
Et en fait, je me suis rendu compte avec l'expérience que c'était pas adapté pour nous. Qu'un terrain qui est compacté chez moi avec très peu d'eau, ça poussait mieux dans les allées où il y avait des creux. Donc peut-être qu'il valait mieux faire des bassines que des buts chez moi.
C'est grâce à l'observation aussi, ça. Bon, la pratique, mais aussi l'observation.
Ouais, l'observation.
Tu vas parler de quoi d'autre comme cycle d'eau dans cette conférence?
Il y en a plein.
Donne-nous un ou deux autres exemples.
Il y en a plein. Est-ce que tu connais les rivières du ciel?
Non, c'est très joli déjà, c'est poétique, me plaît.
Donc les rivières du ciel, ça a été mis en évidence en Amazonie, où on s'est rendu compte que l'eau de la mer crée des précipitations 7 fois de suite sur le continent. Ça veut dire qu'en fait, la pluie n'est pas due uniquement à l'évaporation de l'eau dans la mer, mais est due aussi à l'évaporation de l'eau dans les arbres. Et les arbres ont cette faculté à faire pleuvoir aussi.
Donc
avec, entre autres, y a différents mécanismes qui ont été mis en évidence, des spores de champignons qui vont amorcer la condensation, donc la précipitation, avec les composés organiques volatiles des arbres. Donc, en fait, ils ont remarqué que en Amazonie, la même eau se précipitait 7 fois de suite avant d'atteindre la cordillère des Andes. Donc ça, c'est assez impressionnant.
Les rivières du ciel.
Et donc, ces rivières du ciel, elles existaient chez nous. Elles sont un peu freinées. Alors, elles existent toujours, mais elles sont un peu freinées parce qu'on a moins de forêts.
Oui, ça, c'est la déforestation, bien sûr. On en parle aussi, quoi. Ok, Bruno, écoute, je te remercie beaucoup. Et puis, bonne soirée. C'était Anne-Laure pour RVM. J'étais en compagnie de Bruno Bell qui va faire une conférence sur l'hydrologie régénérative où l'eau, ça se plante. À bientôt sur RVM, la radio qui vous écoute.
L'oreille dans le coin.
Auditrice, auditeur,
à très vite sur l'antenne d'RVM.